J'étais vraiment dans l'excitation ce matin dans la voiture pour venir. Et on est vraiment très très heureux d'être là. Et la communauté va bien, elle grandit. On commence à sortir des maisons. On a pu trouver un local tous les 15 jours pour se rassembler et pour impacter encore un peu plus notre ville, apporter l'amour de Jésus dans la ville. Et ça, on s'en réjouit. Je veux juste vous donner un petit témoignage. Je n'avais pas prévu de le faire, mais ce matin, pendant la louange, j'ai reçu un SMS pour une petite mamie de 76 ans. Qui vit des temps un peu difficiles au niveau de sa santé. Elle a chopé une grosse bronchite qui l'a amenée à l'hôpital la semaine dernière, où c'était un peu compliqué. Elle a du diabète, elle a tout un tas de choses qui sont difficiles. Et puis hier, elle m'appelle en urgence pour me dire « Écoute, là, viens, je sens que ça ne va pas du tout. J'ai commencé à avoir des vertiges, des tremblements, ça se rajoute. » Donc bien évidemment, elle a été voir le médecin. J'ai dit, qu'a dit ton médecin? Alors, c'est aussi mon médecin, donc on a le même. Et on a pu prendre un temps aussi à prier ensemble et à nous reconcentrer sur la fidélité de Dieu. Et simplement, on a prié. On a prié, on a pris autorité. On a dit, mais Jésus est venu aussi pour nous guérir, pas seulement pour nous sauver. Et je veux croire que simplement, il va te libérer. On a fait une prière toute simple. Il n'y a rien eu d'extraordinaire. Elle n'est pas tombée par terre. Et ce matin, je reçois, donc tout à l'heure, elle a tenté de m'appeler vers 10h18 exactement. Et donc, elle me dit, Alléluia Manu, je vais beaucoup mieux. Je n'ai plus tous ces symptômes. Écoute, je suis trop heureuse. Je suis requinquée. Merci, merci Seigneur. Je suis trop contente. Tous les malaises que j'avais, tu vois, tout ça a complètement disparu. Bisous, bisous. Voilà la retranscription du message téléphonique qu'elle m'a donné. Donc c'est juste pour vous encourager et puis pour donner toute la gloire à Dieu. Quand on met notre confiance en lui, quand on croit qu'il est fidèle, comme on l'a chanté tout à l'heure, waouh, il fait des choses extraordinaires. Amen. Alors aujourd'hui, j'aimerais faire un petit constat avec vous. Et vraiment merci Olivier pour les chants qui sont une facilité pour rentrer dans le message. On a chanté « Combien je t'aime ». Waouh ! Mais mon constat aujourd'hui, c'était de dire, beaucoup de croyants aiment sincèrement Dieu. On a un amour, et on l'a chanté tout à l'heure, « Combien je t'aime, combien je t'aime ». C'est assez profond, c'est pas juste un mot en l'air, ça vient des tripes, ça vient de là. Vraiment, j'ai compris que tu es mort à la croix pour moi, j'ai compris que tu as payé le prix pour moi, et je t'aime sincèrement. Certains prient, certains adorent, comme on l'a fait ce matin, certains servent, certains viennent à l'église, amènent les enfants, sont vraiment dans une éducation religieuse avec ce désir de transmettre l'amour de Dieu. Beaucoup avancent dans leur foi, mais intérieurement, beaucoup trop encore vivent dans l'accusation, vivent dans la culpabilité. Et c'est le cœur du message que j'aimerais vous partager aujourd'hui. Beaucoup restent comme une prison ouverte. On vit dans une prison, on vit dans une cage, et pourtant on sait que Jésus est venu ouvrir la porte de la cage et nous a dit « Tu es libre !» Mais on a fait notre maison dans la prison. Et on reste, on sait que la porte est ouverte, les fenêtres sont ouvertes, mais on reste prisonnier. On reste dans une mentalité qui nous rend esclaves, qui nous tient esclaves. Et pourtant, on déclare, Seigneur, tu es fidèle. Seigneur, tu peux tout, même dans la tempête, dans les difficultés, tu es là, et je m'appuie sur toi. Mais bien souvent, on se dit, mais Seigneur, je ne comprends pas. J'ai mis tout mon cœur, toute ma passion, j'ai pris des décisions avec toi, j'ai été radical avec toi. J'ai pris des décisions qui ont eu des conséquences pour ma famille, pour mes enfants. Et là encore, je traîne dans mon péché. Et là encore, je suis face à mes addictions. Et là encore, je suis face à tout ce qui me tient esclave. J'aimerais qu'on puisse se poser une question aujourd'hui. Pourquoi, bien souvent, nous vivons encore comme des accusés? Pourquoi, encore bien souvent, on a cette voix qui vient nous dire « T'es pas au bon endroit, t'es pas légitime, tu fais semblant. » Vous avez jamais entendu cette voix? Moi, je l'ai entendu tellement de fois. Mais t'es qui là ? Ah, tu fais ton leader de... Je vous raconterai mon témoignage tout à l'heure. Mais tu fais la louange, mais moi je connais ce que tu fais dans le lieu caché, dans le secret. Je connais ton cœur. C'était pas la bonne voix qui me disait ça, hein. C'était l'accusateur qui venait pour me condamner, pour me tenir dans une identité d'esclave. Pour aider à comprendre un petit peu tout ça, on va faire une petite scénette. Ça vous va ? Alors je vais appeler mes enfants. Ils sont pas prêts, hein. On va faire... Et j'ai besoin de deux personnes. Est-ce qu'il y a des personnes entre 18 et 20 ans ? J'avais à cœur d'inviter des jeunes, mais après viens si tu veux venir. S'il y a encore un volontaire, sinon je désigne devant là. C'est pas pour vous... Allez viens. Voilà, c'est pas pour vous afficher, mais c'est pour nous aider à comprendre un principe spirituel. Vous savez que Jésus parlait beaucoup, parlait énormément, parlait tout le temps en parabole. Parce qu'il venait expliquer les principes du royaume de Dieu dans des gestes du quotidien, dans des choses toutes simples. Et donc Anaël, ma grande, vient d'avoir 18 ans. Elle n'a pas encore le permis de conduire, mais on imagine qu'elle va s'acheter une voiture. Okay ? Pour s'acheter une voiture, qu'est-ce qu'on fait ? Alors soit on va voir, papa, tu me donnes une voiture. Soit sinon on va contracter un crédit. Ok, ça va ? Donc Anaël, elle n'est pas venue voir son père. Mais elle a contracté un crédit pour s'acheter une belle voiture. Ok ? Et donc, ben Anaël, elle se retrouve avec sa belle voiture, mais elle se retrouve aussi avec des obligations. Celle de rembourser le crédit. Ça va avec tout le monde ? C'est pas gratuit. Et elle a acheté une voiture. Et puis ensuite, elle a acheté un appartement. Et puis ensuite, elle a acheté un super Mac. Un bel ordinateur avec le dernier iPhone, et elle a dépensé. Et elle s'est retrouvée dans la disette, dans la difficulté, parce qu'elle a tellement dépensé qu'elle ne se retrouve plus en capacité de pouvoir rembourser. Et donc, Anaël, elle a commencé à faire la manche. Elle a commencé, parce qu'elle n'avait plus son appartement, elle a dû le rendre. Il y a eu des choses qui ont été compliquées. Et donc, petit à petit, elle se retrouve à devoir faire la manche, à devoir travailler pour redevenir libre. Et là, oh, c'est là où j'ai besoin d'un des deux gars, il y a le banquier qui va venir. Ok ? Toi, tu es le banquier. Ok ? Et donc, tu dois l'obliger à payer.
Sinon, tu as une grosse amende.
Tu vas payer encore plus. Et non seulement tu dois rembourser, mais elle doit te payer les intérêts aussi. Eh oui. Et donc tu l'obliges. Mais là, tu es trop gentil. C'est pas comme ça qu'on oblige, tu vois. Il faut la chahuter un petit peu. Rends l'argent. OK ? Et ça, c'est le banquier, il est là, lui. Qu'est-ce qu'il attend ? La traite à la fin du mois, il veut son argent. Et puis on a, alors je suis désolé, on a un homme qui a un cœur un peu tortueux, qui va venir. Et c'est toi. Et tu vas dire, tiens, Anaël, elle est dans une mauvaise posture, je vais pouvoir l'exploiter. Je vais pouvoir l'utiliser. Quand elle fait la manche, je ne l'autorise pas à faire la manche ici, on est d'accord. Elle doit me donner 10% de ce qu'elle touche. Parce que c'est moi qui dirige le territoire. D'accord ? Tu es un caïd, tu vois. Et donc, tu l'exploites. Vas-y, tu lui ordonnes, va travailler pour moi. Et là, heureusement, on connaît tous cette histoire. Un jour, il y a quelqu'un qui vient et qui dit « Mais moi, je vais payer à ta place. Tu n'es pas en capacité de payer, mais moi, je suis en capacité de payer. » Et ce n'est pas son papa, mais c'est Jésus qui est venu et qui a payé le prix le plus fort. Il a donné sa vie afin de rembourser la dette. Donc Adam, voilà, tu rembourses la dette, tu fais le chèque, voilà. Et tu la relèves, parce qu'elle n'est plus dans sa condition. Et Jésus est venu donner sa propre vie afin de payer toutes nos dettes. Bonne nouvelle, je peux avoir un amen ? C'est excitant. Mais le problème, et c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui, merci les gars, merci beaucoup. Le problème, Anaël reste là. C'est que bien que Jésus ait payé complètement le prix, Anaëlle a été traumatisée par ce qu'elle a vécu. Et bien souvent, je ne dis pas à chaque fois, parce que Dieu permet des miracles extraordinaires où des vies changent du tout au tout. Mais bien souvent, quand l'accusateur vient, il vient lui rappeler sa condition. Pourtant, Jésus l'a sauvée et Jésus a payé pour elle. Mais il vient et me dit, mais tu te prends pour qui, toi? C'est pas Jésus qui a payé la baraque, c'est pas Jésus qui a payé la voiture. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait pour toi, en fait. Tu ne sers à rien, donc tu vas retourner à ta condition. Et en fait, il nous ramène à une condition d'esclave. Il nous ramène à une condition de devoir être débiteur, de devoir payer tout le reste de notre vie à cause des péchés que nous avons commis, à cause de tout ce que nous avons pu faire, à cause du poids aussi, des malédictions générationnelles dans nos familles, ou parfois à cause d'un péché très dur, il y a des conséquences sur plusieurs générations. Et ça, l'accusateur le sait. Il connaît ces choses-là et il vient rappeler la condition d'Anaël. Merci beaucoup. Et ce que j'aimerais partager avec vous, c'est de comprendre comment on peut sortir de cette situation où bien souvent on se retrouve dans les situations qu'on a déjà vécues. Mais Seigneur, je ne comprends pas, pourquoi tu... Pourtant tu m'as sauvé, Seigneur, je ne comprends pas, pourtant tu m'as délivré de ça. Pourquoi ça revient? Pourquoi des choses du passé que je croyais terminées, elles sont en train de revenir? Parce que l'accusateur est là pour nous ramener dans notre ancienne condition. Parce qu'il ne veut pas qu'on rentre pleinement dans la destinée que nous avons en Christ. Alors Colossiens chapitre 2 verset 13 nous dit « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. » Qu'est-ce qu'on apprend ici? C'est qu'il y avait un acte des ordonnances. Là, on est dans un langage juridique. Il y a un acte qui était contre nous, des ordonnances qui nous condamnaient et qui ont été clouées à la croix. Et vous savez que la Bible, c'est un livre juridique. C'est un livre, quand on le lit avec un regard de juriste, on se dit, mais c'est extraordinaire. Alors moi, je ne suis pas juriste, mais j'étais en contact avec une avocate chrétienne qui me disait, mais la Bible, c'est extraordinaire. C'est un livre, quand on comprend, mais il y a tout le monde du juridique, du tribunal. Et on parlait tout à l'heure de l'accusateur, et c'est un des éléments qui vient dans le tribunal de justice dire, je la condamne, voilà ce qu'elle a fait. Et la Bible nous parle d'un tribunal céleste où Dieu siège en tant que juge souverain. C'est un lieu où toutes les affaires célestes sont traitées. Alors, on ne va pas lire tous les versets, j'avais prévu, mais comme j'ai un temps raccourci, j'ai un temps court et j'ai l'habitude d'être un peu long, mais on peut lire dans Daniel chapitre 7, dans Zacharie chapitre 3, dans Apocalypse chapitre 12, on va lire, Apocalypse 12 qui dit « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Et ça, c'est une réalité. Et donc, dans ce tribunal céleste, l'accusateur cherche à nous condamner pour nos péchés. Mais Jésus, lui, il a quel rôle? Celui de l'avocat. Il vient pour nous défendre. Il nous dit, donc lui, il se tient à la droite de Dieu et il présente son sang qui a été versé comme une marque pour dire, mais la dette a été payée. J'ai versé mon sang. Et donc le verdict dans le tribunal céleste, quand Jésus est là comme avocat, c'est non coupable. Non coupable. On a eu un témoignage fort cette semaine où on a un ami qui était accusé d'avoir fait des choses qui n'étaient pas justes. Il a été accusé à tort. Il avait un grand rendez-vous là, avec des autorités, des choses qui venaient pour le condamner avec des fausses accusations, etc. Et samedi dernier, je me rappelle, je lui dis, mais tu sais, le tribunal de Dieu est au-dessus de nos juridictions. Alors, on s'entend, je ne dis pas qu'on ne respecte pas nos juridictions, nos autorités. je suis entièrement en accord avec Matthieu, on bénit nos autorités, mais on croit que quand Dieu décide, peu importe ce que les hommes peuvent dire, Dieu a dit. Donc la chose s'accomplit assurément. Hein, psaume 33, verset 9, « Car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. » Et donc quand Dieu dit non coupable, c'est non coupable. Et les amis, souvent on ne comprend pas cette parole-là. Le jour où j'ai compris ça, vraiment ça a été une révolution dans ma vie. J'étais libéré de tout un tas de choses, d'addictions, et je vous en parlais tout à l'heure, qui étaient là sur ma vie, qui ont été complètement libérées. Parce que l'ennemi peut revenir encore et encore et encore pour m'accuser. Et encore et encore et encore à chaque jour, pour tenter, pour essayer de dire quoi que ce soit. Avant, j'essayais de me battre avec mes forces, avec mes émotions. Non, moi j'aime Jésus, moi j'aime Jésus, je ne tomberai pas à nouveau. Non, mais j'aime Jésus. Mais Jésus ne suffisait pas. Parce que malgré mon amour pour lui, je sombrais encore et encore et encore et encore. Mais quand j'ai compris que Dieu m'avait pardonné définitivement, que dans le tribunal céleste, il y a eu une ordonnance qui a été déclarée, tu es acquitté. Et ce n'est pas tu es acquitté pour aujourd'hui, et puis il y a un deuxième jugement demain, parce que des péchés, on peut être amené à en commettre tous les jours. C'était un jugement définitif. Tes péchés passés, tes péchés présents, et tous tes péchés futurs, c'est payé. C'est comme si Jésus venait voir Anaël en disant, j'ai pas seulement payé ta dette, mais maintenant tu vas pouvoir t'acheter une maison gratuitement, je te donne un chèque en blanc. Alors, je suis pas en train de vous prêcher la prospérité, hein, d'accord ? Mais on comprend que c'est à propos des péchés, à propos de la condamnation qui était sur nous. Romains 8, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Amen. C'est fini. C'est fini. J'étais dans un temps de prière il y a quelques semaines. Et c'est ce qui a émané de ce message. C'est ce qui est venu, ce qui était la source de ce message. Et dans ce temps de prière, j'étais juste dans un temps d'écoute et il y a une pensée qui revenait en moi. Et comme le Saint-Esprit qui parlait et qui me disait, mais tu sais Jean-Manu, une seule goutte de mon sang suffit. Et là j'étais, waouh. Puis je prends vraiment ça pour une révélation. Une seule goutte de ton sang suffit. Waouh Seigneur, trop bon. Alors du coup, quand je vais aller prier pour des gens, je vais prier une goutte du sang de Jésus pour toi. Une goutte du sang de Jésus pour toi. Une goutte du sang de Jésus pour toi. Il m'a dit, non, mais attends, t'as pas compris du tout ce que je suis en train de te dire. C'est pas à propos d'une goutte pour lui, une goutte pour lui, une goutte pour lui. C'est une seule goutte de sang a suffi pour sceller le salut de l'humanité tout entière. C'est pas juste à propos de la quantité, mais c'est à propos de l'autorité. Mon sang est venu être comme un sceau qui a marqué tous ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie. Et l'accusateur ne peut plus venir les chercher pour leur dire « Tu es condamné, regarde ce que tu fais. » Parce que moi, j'ai mis mon sceau sur eux. Mon sang parle plus fort. Pour vous donner une image, imaginons un roi qui vit dans un ancien royaume. Et il a envie d'interpeller, d'inviter son preux chevalier à l'envoyer en mission. Le roi est loin de son chevalier, il ne peut pas le convier, donc il lui envoie une missive. Donc il va faire rédiger un courrier, il va le donner à un envoyé, un serviteur qui va lui envoyer ce courrier. Mais sur ce courrier, il va poser son sceau. Il va faire couler de la cire, prendre son anneau royal avec le sceau royal, et il va attester que cette lettre vient bien de lui. Et on comprend le poids de l'autorité. Le serviteur, c'est un serviteur lambda. Peut-être que c'est un fidèle serviteur, mais peu importe quel serviteur je vais envoyer finalement. Peu importe le modèle de courrier que je vais envoyer. Je peux envoyer un email, je peux envoyer un courrier papier, je peux même écrire sur un bout de tissu. Et vous savez qu'un chèque pour être accepté, il peut être même écrit sur du papier PQ. Parce que le contenant n'est pas important, ce qui importe, c'est le contenu, c'est ce qui est écrit dessus, la signature, les mentions légales, etc. C'est du juridique. Peu importe, vous pouvez écrire, faire un chèque sur un bout de papier. Du moment que vous avez toutes les mentions légales obligatoires, c'est validé. Ce qui est important ici, ce n'est pas la lettre, ce n'est pas le serviteur. Ce n'est même pas l'ordre qui est donné. Ce qui est important ici, c'est le sceau, c'est l'autorité avec lequel le chevalier va recevoir l'ordre. Quand il va voir le sceau, il va dire « Waouh, le roi m'a écrit ». Et là, il est saisi de crainte parce que c'est à propos du roi. Et donc, je vais m'exécuter parce que je dois obéir à l'ordonnance du roi. Vous comprenez la dimension d'autorité ? Elle est juste extraordinaire. Et quand on sait que Jésus, en mourant sur la croix, il a payé de son sang qui est d'une autorité divine. Après Dieu, plus personne ne parle. On a tous des gens qui veulent parler dans nos vies. Après Dieu, plus personne ne parle. Il y a 2 ans de ça, j'étais dans un temps, pareil, d'intimité avec Dieu. Et je me battais avec le ministère. Est-ce que je suis vraiment légitime ? Est-ce que j'ai vraiment assez ? Est-ce que c'est vraiment ma mission ? Est-ce que j'ai la bonne vision ? Ah Seigneur, pourquoi parfois je manque d'onction ? Seigneur, pourquoi ? Et un jour, Dieu m'a dit, écoute Jean-Manu, tu es mon serviteur, point. Il me l'a dit comme ça, avec le point. Point. Après moi, tu ne rajoutes plus rien. Peu importe ce que les gens peuvent dire de toi, moi j'ai dit, tu es mon serviteur. Et cette phrase dans mon cœur a été une révélation qui a changé ma manière de faire, qui a changé mon attitude, qui a changé même mon identité. Alors ce que j'aimerais faire ce matin, c'est vous inviter à prendre de la hauteur. Et à dire, mais parfois on est dans des situations où il y a la tempête qui est là. On l'a chanté et Olivier l'a partagé tout à l'heure. Peut-être que tu es dans des difficultés. Peut-être qu'en ce moment, c'est la tempête. Peut-être qu'en ce moment, tu te bats avec du péché. Peut-être en ce moment, tu te bats avec tout un tas d'addictions qui peuvent être là dans ta vie. Et si tu regardes juste à tes sentiments pour Jésus, mais dimanche, on a chanté « Combien je t'aime, j'étais sincère, Seigneur ». Mais vous savez, Anaëlle, elle avait beau être sincère, elle devait payer la dette. Et la sincérité, elle ne sauve pas. On peut être sincère avec Dieu en disant « Oui, mais regarde tout ce que j'ai fait pour toi ». Et la Bible nous parle de ses serviteurs qui diront « Mais regarde Seigneur, j'ai prophétisé en ton nom, j'ai chassé des démons, j'ai partagé ma foi ». Et Jésus, qu'est-ce qu'il va leur dire ? « Je ne vous connais pas ». Et plutôt, « Je ne vous ai jamais connu ». Ce n'est pas notre sincérité qui compte. Alors c'est important, l'amour qu'on peut porter pour Dieu, c'est important. Mais parfois, ça ne suffit pas. Et on a besoin de comprendre que Jésus a payé définitivement. Et on a besoin de comprendre qu'on a besoin de déposer nos armes, d'arrêter de faire par nous-mêmes, d'arrêter de vouloir essayer de nous en sortir par nous-mêmes, de se mettre à genoux et de crier « Seigneur, maintenant, ça suffit. Je crois que Jésus est mort pour moi et que je crois que tu m'as donné une porte de secours pour sortir de ma prison. Alors je veux maintenant sortir de cette prison. » Jésus n'a pas payé la dette pour que nous restions dans notre condition. Christ est venu et comme le fils prodigue, le Père l'a accueilli avec ses bras d'amour. Il lui a mis un vêtement nouveau, un vêtement blanc. Il lui a mis la bague qui représente qu'il appartenait à la famille. Et c'est ce que Dieu veut faire avec nous ce matin. J'aimerais vraiment qu'on puisse parler des addictions, quelques instants. Il y a tellement d'addictions dans nos vies. Tellement de choses qui sont cachées, qui sont secrètes, qu'on n'oserait pas révéler, mais que Dieu voit. Et qui sont ce qui fait qu'on augmente la dette jour après jour. Et ce qui fait que l'accusateur vient jour après jour vers nous en disant « T'es pas capable, t'es indigne, tu mérites pas la grâce de Dieu. » Vous savez, la grâce de Dieu, elle redéfinit pas le péché. C'est pas parce que Dieu est grâce qu'il a redéfini le péché. Mais la grâce de Dieu donne la puissance pour sortir du péché. Et ça, c'est important. Beaucoup prêchent l'hypergrâce en disant « venez dans la grâce, tout est que grâce ». Et c'est vrai, mais elle ne redéfinit pas le péché. Si tu pèches, la condition, c'est celui qui pêche, il va à la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. D'accord ? Et ces choses-là, c'est des choses, des lois spirituelles qui sont juridiques, qui s'accomplissent assurément. Et si Jésus n'est pas là dans nos vies pour nous sortir de ça, alors notre chemin, on le connaît, c'est la mort. Et souvent, on peut avoir des addictions. Alors, il y a des addictions qui sont très connues. L'alcool, la drogue, le tabac, les médicaments, la pornographie, la sexualité dépravée, les jeux d'argent. Et on a des addictions qui sont de plus en plus présentes. Les écrans, les amis, notre meilleur ennemi. Celui qui vient dans le lieu secret quand je me couche, qui détermine ce que je vais regarder avant de me coucher, ou qui me réveille le matin et qui m'alimente de tout un tas d'images. Les réseaux sociaux. Il faut avoir beaucoup de discernement et de sagesse pour pouvoir les utiliser. Ce sont des addictions qui sont comme des prisons construites par l'ennemi pour nous garder captifs. Vous savez, c'est comme ce garçon qui était venu pour exploiter Anaël. Les addictions sont des éléments qui viennent là dans nos vies et qui nous tiennent esclaves. Et j'ai une nouvelle pour vous. On peut être chrétien et être dans l'addiction. On peut être chrétien et être esclave. On peut être chrétien, croire en Dieu, venir à l'église le dimanche matin et puis vivre d'une manière dépravée en rentrant à la maison. Ça parle à quelques-uns ? Je ne vous demande pas de lever la main pour le coup, c'est un peu gênant. Mais je vais vous parler de mon témoignage. J'ai grandi dans une famille qui était difficile, avec un papa pervers narcissique, où l'autorité était abusive. Quand j'avais à peu près 10 ans, j'ai découvert que mon père allait sur son ordinateur, je l'ai grillé en train d'aller sur des sites pornographiques. Et pris de colère, parce que j'ai une maman handicapée, et du coup ça m'a mis dans une colère terrible vis-à-vis de mon père, et j'ai dit mais je vais attendre qu'il aille se coucher, et comme il laissait toujours l'ordinateur allumé, je vais aller et puis je vais regarder ce qu'il regarde. Parce que je voulais faire justice quelque part. Et puis, ce n'était pas seulement de la pornographie, c'était du sadomasochisme, avec des images terribles qu'un enfant n'aurait jamais eu à regarder à ce moment-là. Et je suis tombé dans la pornographie comme cela. Au début, à cause de la colère, parce que j'en voulais à mon père pour ce qu'il faisait. Et parce que c'était un ancien dans l'église. C'est pour ça que je vous dis, c'est des choses qui sont graves et qui peuvent toucher tout le monde. Et à ce moment-là, il y avait tellement de colère que ça a ouvert des portes dans mon cœur. Il y a des choses qui ont commencé à me dire « reviens, 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 reviens ». J'ai vécu des soirs et même des nuits où j'étais réveillé et où mon corps se mettait à bouger tout seul pour descendre, pour aller regarder. À l'intérieur de moi, je criais « arrête, arrête, ne fais pas ça ». Et pourtant, j'allais sur l'ordinateur pour consommer le même contenu que mon père consommait. Parce que je n'allais pas pour regarder quelque chose de nouveau, hein. J'allais juste pour le surveiller. Mais en le surveillant, je consommais aussi pour moi. Et pourtant, j'étais chrétien. Pourtant, j'ai toujours cru en Dieu. J'étais dans une famille qui aimait Dieu. J'allais à l'église. Très rapidement, à l'âge de 16 ans, j'ai commencé à lider la louange. J'étais reconnu pour ça. Les gens dans mon église, à Dax, dans les Landes, tout le monde disait « Oh, lui, il va être pasteur, etc. Il y a quelque chose sur sa vie. » Et pourtant, le dimanche matin, je venais faire la louange. Mais le matin même, j'étais dans le péché. Les amis, le matin même. Parce que quand on est esclave de ces choses, c'est des choses qui nous tiennent. C'est des choses qui sont profondes. Et il y a des addictions. Je ne dis pas que Jésus va enlever toutes les addictions d'un revers de main. Oui, ça peut arriver. Mais après, il y a notre condition qui veut changer. Il y a nos paradigmes qui veut changer. Notre identité qui veut changer. Parce que là où l'accusateur est venu te dire, tu vois, t'es qu'un moins que rien. Tu vois, tu as beau être en colère après ton père, regarde, tu es dans la même condition que lui. Et toi qui te dis chrétien, tu es pire que lui. Il a fallu que je comprenne cette dimension où quand Dieu m'a dit, tu es acquitté, tu es pardonné, ça a été définitif. Les amis, j'ai vécu des transformations radicales. Est-ce que vous croyez que la pornographie, des fois, elle tape à la porte? Bien sûr qu'elle tape à la porte. Parce que dans mon cœur, il y a une brèche à un moment donné. D'accord? C'est comme une muraille qui a été ébréchée. Et l'ennemi, il sait où taper. Ne croyez pas que c'est facile tous les jours. Parfois, il vient. Oh, tu ne pourrais pas aller sur un site, tu ne pourrais pas faire ceci. Mais aujourd'hui, j'ai pris autorité et j'ai pris la décision de dire, mais toi, tu dégages, je te reconnais. Je ne veux plus de toi. Et ce qui fait la force, ce qui me permet d'y arriver, ce n'est pas à propos de moi, ce n'est pas à propos de mes forces, ce n'est pas à propos de mon autorité, c'est juste à propos du sang de Jésus. Et quand je regarde l'ennemi, je dis, tiens, regarde le sang, tu ne peux plus rien contre moi. Regarde le sang de Jésus, lui, il a payé pour moi. Qui es-tu pour m'accuser alors que Dieu m'a dit, tu es pardonné? Et là, l'ennemi, j'ai appris à lui mettre des coups de pied au derrière. Elle lui dit, maintenant tu pars. Je ne veux plus entendre parler de toi. Amen. Est-ce que l'équipe de louange peut venir? On va prendre un temps. J'aimerais faire 3 appels ce matin. Peut-être que sûrement, il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Peut-être que tu croules sous la dette du péché. Et je veux te dire, la bonne nouvelle, c'est que Christ, il est venu pour payer pour toi. Et je vais faire 3 appels et puis ensuite, je vous inviterai à venir sur le devant, pas tout de suite, à la fin des 3 appels. Et peu importe le sujet, comme ça, vous êtes libre de pouvoir vous lever assez facilement. Et puis, j'appellerai les équipiers de prière à venir pour prier pour vous. Et si tu, aujourd'hui, si tu es écroulé sous le poids de la dette, sous le poids du péché, sous le poids de l'accusation, peut-être que tu ne connais pas encore Jésus et tu dis, mais ça, c'est l'opportunité pour moi d'être libre. Ça, c'est l'opportunité pour moi d'être changé, d'être transformé. Alors, je t'inviterai à te lever. Mais peut-être aussi que tu fais partie de ces chrétiens qui, un jour, ont donné leur vie à Jésus. Mais tu t'es éloigné. Tu t'es refroidi. Et les mœurs, la vie, le quotidien a fait que petit à petit, tu as perdu ta foi. Tu as perdu cet amour, cette passion pour Jésus. Et j'aimerais te demander aussi de te lever et de venir sur le devant tout à l'heure. Comme on l'a vu tout à l'heure, vous savez, le sacrifice de Jésus, il est venu pour 3 choses. Pour sauver les perdus, pour guérir les malades et pour chasser les démons. Ces 3 niveaux de révélation, esprit, âme et corps. Et il y a aussi toutes ces personnes qui vivent dans une condition de maladie, de douleur physique, de douleur émotionnelle. Toutes celles et ceux qui portent un fardeau dans le corps, peut-être depuis des années, des douleurs chroniques, des choses qui reviennent, des malédictions générationnelles qui font que sur plusieurs générations, il y a des problèmes cardiaques, il y a des problèmes de diabète, il y a des problèmes qui ne devraient pas être là, mais qui sont là à cause de malédictions. Mes amis, le même sang qui nous a libérés de nos péchés a aussi le pouvoir de nous guérir. La Bible dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et comme l'a vécu Jacqueline, le témoignage de Jacqueline que je vous ai partagé tout à l'heure, aussi, il y a une voie pour la guérison ce matin. Il y a une voie pour la transformation. Il y a une voie pour que tu sortes de cette prison, de cette identité de malade. Les amis, j'ai une maman qui est handicapée, qui a la polio. Et dans son identité, c'est « je suis handicapé ». Et c'est extrêmement difficile de sortir de cette identité-là. Mais ce n'est pas comme ça que Jésus te voit. Il ne te voit pas comme une handicapée. Il ne te voit pas comme quelqu'un qui a des difficultés physiques. Il te voit comme son fils, comme sa fille bien-aimée. Prince, princesse du royaume de Dieu. Et il y a une voix de secours ce matin. Et j'aimerais enfin faire un appel aussi pour tous ceux qui se sentent bloqués dans leur vie. C'est comme s'il y avait un plafond de verre au-dessus de la tête, comme si rien ne bougeait. Comme quand moi j'étais accro à la pornographie, il y a quelque chose qui m'animait à l'intérieur pour aller chercher ces choses-là, parce que ça devait remplir un vide qui était là dans mon cœur. Et si tu te sens concerné par rapport à tous les sujets d'addiction qu'on a parlé tout à l'heure, mais simplement, lève-toi, viens sur le devant et on va prier que le sang de Jésus, que la marque de Jésus soit apposée sur ta vie afin que tu puisses sortir de la prison. Amen. Fermons les yeux ensemble. Prenons quelques instants. Demandons au Saint-Esprit, Saint-Esprit, est-ce que tu m'invites ce matin à me lever ?